L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
On est reparti pour une, là, Bernard Vacherot.
Mais avec plaisir, j'espère du moins aussi le plaisir pour nos malheureux auditeurs qui me subissent.
Alors moi, la semaine dernière, vous m'avez perdu, vous m'avez dit qu'on ouvrait un grand chapitre sur Dominique, et puis on l'a perdu au bout de trois lignes.
Hein. Ah, on n'a pas perdu,
on reviendra.
On est dans la démarche qui approche Dominique.
Hein. D'accord.
Voilà. Alors,
j'avais des comptes à régler avec lui, c'est pour ça. Hein.
Oh, le pauvre Dominique. Bon. Mais quoique, attention, ça peut être lui ou elle, parce que Dominique est aussi un prénom féminin.
Oui, d'accord, mais pendant la croisade des Albigeois, c'est bien le Dominique.
Et
qui
oui.
a suivi Simon de Montfort, hein.
Et oui, et oui,
et
oui.
Et qui a béni les survivants.
Et oui, et oui. Toujours est-il que celui-là devait être beaucoup plus doux que ce qui était prévu, et le fut que Simon de Montfort. Simon de Montfort, c'était épouvantable.
Oui, vous allez me raconter quand même François d'Assise et Saint-Dominique, mais à votre rythme. Hein.
Oui, 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 on va y arriver. Pour le moment, nous sommes à Bordeaux, en Gironde, pays des bons vins, et toujours est-il qu'en 384, vous voyez que, bon, un concile s'est tenu à Bordeaux qui a condamné l'hérésie priscillianiste dont on a parlé dans la précédente émission. Alors, l'Église gallicane condamna encore d'autres hérésies, comme par exemple nestorienne et prédestinationniste. Alors, les prédestinationnistes, comme leur nom l'indique, disaient que tout homme est prédestiné, de par sa nature, à quelque chose, en général, le mal, hein.
Alors que le seul truc dont on est sûr, c'est qu'il est prédestiné à mourir.
Eh ben, ça, de toutes les manières. Mais c'est justement cette espèce de côté malsain de la prédestination. On n'a pas d'espoir, on n'a rien, c'est pas la peine de faire quelque chose.
Inch'Allah.
Puisqu'on est prédestiné, voilà, hein, Inch'Allah. Oui, sauf que les musulmans ne le disent pas dans ce sens-là du tout. Hein. Ils le disent, bon, à la grâce de Dieu, mais c'est dans un but d'espérance chez eux. Alors, l'Église gallicane a donc stimulé le clergé à instruire le peuple par une formation de base et même par des études supérieures pour ceux qui en avaient les capacités et voulu la formation d'un clergé plus cultivé et capable. Déjà, ce problème existait. Hein. Alors, durant le IXe siècle, Gotteskalk a voulu rénover le prédestinationnisme entre les années 840 et 860. Il fut poursuivi par l'archevêque de Reims, appelé, il était célèbre, Ingmar de Reims, et décéda sans avoir rétracté ses idées entre 868 et 869. De son côté, un autre homme, un grand homme, Jean Scott Erigène, de l'Église d'Irlande, dont on perd d'ailleurs la trace en 877, a été un traducteur en latin de nombreux écrits patristiques, c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église, originellement rédigés en grec, comme par exemple ceux du pseudo-Denis, à savoir Denis l'Aéropagite, auteur néoplatonicien du 5e siècle. La pensée de Jean Scott Erigène fut une des plus hardies pour son époque et faillit être condamnée par l'Église. Pourtant, force fut de reconnaître qu'il n'avait rien d'hérétique. L'Église gallicane des 10e et 11e siècles ne cessa pas de condamner tous les brigandages armés des seigneurs locaux qui nuisaient au petit peuple citadin et rural. Elle s'attacha à réprimer les actes simoniaques des clercs véreux, il y en avait beaucoup, et même de certains évêques. Eh oui, il y avait des évêques simoniaques. En théologie, l'Église gallicane s'attacha à défendre la doctrine officielle de l'Église dirigée par le pape romain. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que contrairement à ce que d'aucuns pensent, l'Église gallicane, dans ses origines, et même on peut dire jusqu'au XVIIe siècle, n'a pas du tout été anti-romaine. Ah non. Mais elle a voulu garder les us et coutumes de la Gaule, de la France, hein, Église de France, sans pour autant se séparer du pape, du tout. Alors, c'est ainsi qu'en 1047, Béranger de Tours, qui a été l'élève de l'école de Fulbert de Chartres, eut une doctrine très controversée sur l'Eucharistie et fut plusieurs fois condamné. Mais il eut la modestie et la grandeur intellectuelle de retirer ses erreurs et mourut réconcilié avec l'Église en 1088. Sa doctrine eut pourtant de lourdes conséquences sur la théologie eucharistique par la suite. Il y eut en effet un mouvement qu'on a appelé Bérengarien, soutenant cet archidiacre d'Angers, dans le Maine-et-Loire, qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Vous voyez que c'est un vieux problème qui n'a rien de nouveau, et certains penseurs ou théologiens actuels qui font cette même négation, en fait ne font rien de neuf, puisque le Béranger y avait déjà pensé. Les Bérengariens furent très critiqués par des hommes comme Lanfranc et Guitemont. L'enseignement des Bérengariens exerça une influence sur la théologie des luthériens. Oui, Luther qui a vécu entre 1483 et 1546, et sur les calvinistes, Calvin qui a vécu de 1509 à 1564. Sous certains côtés, la doctrine de Béranger pouvait être rapprochée de celle de Jean Scott Érigène, dont nous avons commencé à parler ici plus haut. Mais elle fut condamnée au Concile de Latran en 1059. Nous avons vu plus haut que de nombreux évêques s'opposèrent aux idées de Béranger, comme par exemple, je pense à Lanfranc, archevêque de Canterbury en Angleterre, qui, dans son traité intitulé « Du corps et du sang de notre Seigneur », traite de ce sujet. Et encore par Guitemont, évêque d'Avers, près de Naples en Italie, et d'Alger, alors, bon, il ne s'agit pas d'un Algérien, non, il s'agit d'Alger ou Alger, prêtre scolastique de Liège, en Belgique. À ces derniers, il convient de joindre Érasme, le grand Érasme, qui a vécu de 1469 à 1536, fut un grand humaniste hollandais, auteur de traités comme l'Éloge de la folie, ou encore Colloque, ou encore Institution du prince chrétien. Il tenta, dans ses travaux basés sur les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, de pouvoir préconiser une entente entre catholiques et réformés et s'intéressa à l'œuvre de Béranger. Mais, d'accord avec les évêques, critiqua celle-ci. Par la suite, nombreuses furent les critiques contre Béranger, même si certains, comme celle du pape Grégoire VII, qui a été pape de 1073 à 1085, eurent un ton beaucoup plus modéré, allons-nous dire. Béranger finit par se rétracter, selon le témoignage du moine Clarius et de Richard de Poitiers, ainsi d'ailleurs que de Guillaume de Malesbury, qui atteste que Béranger mourut en 1088, réconcilié avec l'Église et en paix. Mais son influence eut une certaine marque sur le luthérianisme et le calvinisme. Actuellement, à Tours, dans l'Indre-et-Loire, les chanoines de ces cathédrales font célébrer des messes pour Béranger de Tours. Il y a toujours une influence. Alors si la France des 10e et 12e siècles est traversée par des courants contestataires et souvent très opposés les uns aux autres, elle est aussi marquée par un grand élan de réforme ecclésiastique qui donne à l'Église gallicane un très bel et vif essor, en particulier sous la mouvance des moines et des moniales. Rappelons Saint Bruno et ses chartreux en 1084, Cîteaux en 1098, Bernard de Clairvaux entre 1090 et 1153, Saint Norbert et ses prémontrés en 1120, et enfin Robert d'Arbrissel qui, en 1101, fonda l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire, doublé d'une communauté féminine. Alors là, c'est intéressant, parce que c'est l'une des plus anciennes communautés féminines monastiques que l'on connaisse en Gaule. C'est dans ce contexte qu'arrive Dominique, le théologien, le philosophe, le spirituel.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées, et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée, et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté. Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.
Les sabots d'Hélène de Georges Brassens dans l'émission de Bernard Vachereau. Et nous allions en venir à Dominique.
Eh oui, car Dominique avait mis certainement des sandales aux pieds, et non pas les sabots d'Hélène, mais... Ah oui, qu'est-ce que tu veux, elle est facile celle-là. Hein. Mais c'était pour aller en mission. Alors voilà, Saint-Dominique, chanté par Sœur Sourire, dont on n'a pas oublié les chansons, du moins pour les vieillards dans mon genre. Bon, Saint-Dominique naquit en 1170 à Calarruega, en Vieille-Castille, décidément en Vieille-Castille, en Espagne, dans la famille de Guzman. À Palencia, il étudie la grammaire. Alors, entendons-nous, en fait de grammaire, il s'agissait d'études de connaissances essentiellement philosophiques et de d'autres domaines intellectuels, et l'on qualifiait de grammairien ceux ou celles qui s'adonnaient à ses études et recherches. Alors, ceci dit, donc, Dominique fut un grammairien. À ses études, il joignit celle de l'exégèse biblique. Conscient du poids du contexte social, économique et politique, et des crises graves que subissait le petit peuple d'Espagne, il voulut tenter d'y remédier selon ses faibles moyens. Aussi, au cours d'une terrible famine, il vendit tous ses meubles et ses manuscrits, annotés de sa main, pour donner de la nourriture aux pauvres et organisa un centre de distribution de vivres en faveur des plus démunis. Le frère Étienne, devant déposer, témoigner dans le procès de canonisation en faveur de Saint-Dominique, rédigea sa déposition intitulée « Déposition au procès de canonisation de Bologne », c'est-à-dire le procès de canonisation de Saint-Dominique qui se tint à Bologne en Italie. Et il déclara en cette circonstance « Saint-Dominique a dit ceci, je ne veux pas étudier sur des peaux mortes lorsque des hommes meurent de faim. » Je pense qu'une telle phrase, aujourd'hui, aurait une sonorité et ont une sonorité importante. Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes les parchemins lorsque des hommes meurent de faim. Brillant intellectuel, il accomplit vite son parcours d'études et se trouve, à l'âge de 24 ou 25 ans à peu près, agrégé au chapitre de la cathédrale d'Osma en Espagne. Les religieux de ce chapitre vivaient selon la règle de saint Augustin d'Hippone, qui a vécu vers 354-430, règle qui influença d'ailleurs Saint-Dominique quand il fonda l'ordre des Dominicains, qui fut approuvé en 1217. Ordonné prêtre, il devint sous-prieur de ce chapitre des chanoines de la cathédrale d'Osma. Ceci nous le montre en espagnol, c'est-à-dire avec un tempérament tout feu, tout flamme aussi, un peu digne du caractère et de la culture d'Espagne.
Et d'un cliché.
Un peu, oui. Parce que, d'un autre côté, par le nom de Guzman, bon, on sent un peu aussi d'autres pays du Nord-Est.
En même temps, c'est controversé, ça. Hein, c'est
oui,
pas,
tout
c'est
à fait.
Pas prouvé que ce soit un Guzman.
C'est l'intérêt de l'histoire, c'est justement d'être toujours en recherche. L'historien qui se borne à dire « c'est ça » définitivement, n'est pas sérieux. Hein? Alors, Dominique, donc, bon, a mené ce champ de recherche. Et un personnage qui s'appelle Diègue d'Acebès, alors évêque d'Osma, ayant remarqué la valeur de ce jeune chanoine, l'emmène à partir de l'an 1203 voyager avec lui au Danemark pour le compte du roi de Castille, Alphonse VIII, qui, en 1212, vainquit les musulmans à la bataille de Las Novas de Tolosa, c'est-à-dire la Nouvelle de Toulouse, ne l'oublions pas. Hein. Durant ces voyages, nos itinérants découvrent la détresse spirituelle des chrétiens abandonnés aux erreurs, à la simonie et à la totale inertie de certains évêques et membres du clergé. En 1206, les voilà à Rome. À Rome, ils sont reçus par le pape Innocent III, pape de 1198 à 1216, qui commence à s'intéresser au personnage de Dominique et pressent qu'il pourrait convenir à l'exécution de ses grands projets. Mais, pour l'heure, l'évêque espagnol d'Osma, Diègue d'Acebès et Dominique reprennent la route de l'Espagne et marquent un arrêt en France, à Montpellier, dans l'Hérault, où ils rencontrent les légats du pape Innocent III, que l'évêque Diègue d'Acebès et lui venaient de voir à Rome au cours de l'entrevue lors de laquelle ce dernier leur avait dit sa préoccupation de l'hérésie cathare sévissant en Languedoc, au sud de la France, et surtout aux Toulousains, sous l'autorité du comte Raymond VII. Et Dominique y rencontra l'inquisiteur Pierre de Castelnau, à la triste réputation de cruauté personnelle.
Ah, donc la semaine prochaine, on va attaquer quasiment par la lutte contre l'hérésie, l'inquisition, la croisade des Albigeois,
et
tout ça, tout ça.
Et aussi, un peu contre, les cruautés de Pierre de Castelnau.
Merci Bernard Vacherot,
à la semaine prochaine.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.